La modification des équilibres économiques et sociaux. Comment les grands équilibres économiques et sociaux sont-ils modifiés des années 1970 à 1991? A. Les chocs pétroliers, la crise économique occidentale. 1. La fin des Trente Glorieuses. L'après-guerre est caractérisée par une période de plein emploi et de prospérité économique exceptionnelle que l'économiste français Jean Fourastier appelle les Trente Glorieuses, 1946-1973. Les pays qui connaissent alors la plus forte croissance sont le Japon, l'Allemagne, la France et les États-Unis. Cette croissance repose sur l'augmentation de la production industrielle, sur la hausse des gains de productivité, ainsi que sur l'accroissement de la population mondiale. Elle permet un enrichissement collectif et le développement, en Europe occidentale essentiellement, d'un État-providence garantissant à tous un système de sécurité sociale. Mais la fin du système de Bretton Woods, 1971, la dépréciation de la valeur du dollar qui s'ensuit, de même que la lente hausse du chômage et de l'inflation, hausse des prix, depuis la fin des années 1960, témoignent de l'essoufflement de la croissance des pays occidentaux confrontés à une nouvelle concurrence internationale des pays du tiers-monde et à une crise du taylorisme. 2. Les deux chocs pétroliers. C'est dans ce contexte qu'intervient le premier choc pétrolier, le 6 octobre 1973, le déclenchement de la guerre du Kippour par la Syrie et l'Égypte contre Israël conduit les États-Unis à livrer des armes à Israël. En représailles, les pays de l'OPEP réunis au Koweït, 16-17 octobre 1973, décident d'augmenter de 70% le prix du baril de brut et, chaque mois, de réduire de 5% leur production pétrolière. À partir du 28 octobre, quelques pays, dont les États-Unis, sont même touchés par un embargo pétrolier. La crise s'installe, la production industrielle recule, la croissance se ralentit, le chômage augmente. 5% des actifs en moyenne dans les pays de l'OCDE, ainsi que l'inflation qui est supérieure à 10% dans les pays industrialisés. On parle de stagflation. Si à partir de 1976 une entreprise s'amorce, celle-ci est compromise par un deuxième choc pétrolier en 1979. La révolution islamique en Iran, puis le déclenchement de la guerre Iran-Irak en 1980, provoque l'interruption des exportations pétrolières iraniennes et, par effet d'entraînement, le doublement des prix du baril entre 1979 et 1980. L'inflation ainsi que le chômage de masse repartent à la hausse tandis que la croissance des pays développés devient négative en 1982, moins 4,5%. Plus grave que la précédente, cette crise n'épargne ni les pays du bloc communiste ni les pays du tiers-monde. 3. Des solutions partielles. Confrontées à la hausse des prix du pétrole, les firmes multinationales délocalisent leurs usines dans des pays où la main-d'œuvre est peu chère, en Asie notamment. Dans les pays industrialisés, l'augmentation du coût de la vie pousse les travailleurs à faire grève pour revendiquer des hausses de salaire. Hiver du mécontentement au Royaume-Uni entre 1978 et 1979. Face à la crise, les gouvernements peinent à trouver une solution. Ils adoptent d'abord des solutions keynésiennes, investissements massifs de l'État dans l'économie, qui permettent de limiter les effets sociaux de la crise, mais pas de la résoudre. Par ailleurs, l'interventionnisme de l'État a pour conséquence d'augmenter son déficit budgétaire. B. De nouvelles formes de capitalisme. 1. La solution néolibérale. Inspiré par les théories de Milton Friedman, école de Chicago, les économistes néolibéraux préconisent de laisser les lois du marché réguler l'économie. Selon eux, l'État doit se désengager pour ne pas accroître sa dette et diminuer la masse monétaire en circulation pour réduire l'inflation. Le Royaume-Uni de la première ministre Margaret Thatcher, 1979-1990, puis les États-Unis du président Ronald Reagan, 1980-1988, s'inspirent de ces théories néolibérales. Un désengagement de l'État en matière économique s'opère dans ces deux pays. Libéralisation, privatisation des entreprises au Royaume-Uni, British Petroleum, British Aerospace, baisse des impôts et des budgets sociaux, mesures de dérégulation pour supprimer toutes les réglementations jugées néfastes à la reprise de l'activité économique, et notamment les réglementations financières aux États-Unis. Les Reaganomics ont un effet immédiat sur l'économie américaine. L'inflation chute, le chômage passe de 7,1% en 1979 à 5,2% en 1989, et la croissance du produit national brut, PNB, s'élève à environ 6% entre 1983 et 1984. La réussite de ces modèles économiques inspire en partie les politiques d'autres pays touchés par la crise, RFA, France. Le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale conditionnent l'octroi de leurs prêts aux pays en développement et aux anciens pays communistes, Bolivie en 1985, Pologne en 1989, au respect des règles néolibérales du consensus de Washington. Le néolibéralisme se diffuse aux pays du Sud. Néanmoins, la dette des États-Unis double en raison de la baisse des impôts et de l'augmentation du budget de la défense, course aux armements, tandis que les inégalités sociales s'accroissent. Ces politiques néolibérales suscitent des vagues de protestations, grève des contrôleurs aériens aux États-Unis en 1981, des mineurs au Royaume-Uni en 1984, des cheminots en France en 1986. 2. Le socialisme de marché. Dans la Chine communiste, Deng Xiaoping entreprend depuis 1978 des réformes destinées à faire sortir son pays du sous-développement et à maintenir le Parti communiste chinois, PCC, au pouvoir. La politique des quatre modernisations, agricole, industrielle, militaire et scientifique, conduit à la réhabilitation de la notion de profit, à l'assouplissement de la planification, à la réintroduction d'un secteur privé en Chine, à la décollectivisation des campagnes et à l'ouverture des pays aux investissements étrangers dans les zones économiques spéciales, ZES. Une nouvelle forme de capitalisme, le socialisme de marché, associe le libéralisme économique à l'interventionnisme économique et politique autoritaire de l'État. L'État chinois tente alors de faire une synthèse entre le capitalisme et le communisme. Devant le succès de ce socialisme de marché, l'ouverture se poursuit sur les littoraux chinois. En signant des accords commerciaux avec la CEE, le Japon ou les États-Unis dès 1978, la Chine devient un partenaire économique essentiel dans le cadre d'une économie de plus en plus mondialisée. Elle offre aux entreprises occidentales qui souhaitent y délocaliser leurs unités de production des avantages fiscaux, une main-d'œuvre abondante, peu chère et peu revendicative. Avec un taux de croissance qui dépasse 10% par an en moyenne dans les années 1980, la Chine se transforme surtout le long de son littoral où s'installent les grandes firmes étrangères désireuses de profiter de l'augmentation du niveau de vie des populations. KFC à Beijing en 1987, McDonald's à Shenzhen en 1990.